À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir.
Des Allemands qui donnent des coups de pioche dans le mur. Un extrait du journal d'FR3, le 9 novembre 1989. Ce soir-là, j'étais à ma première boum chez Sandra Elguir. Notre invité, lui, avait beaucoup mieux à faire. Bonjour Alain Auffray.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Alain, vous êtes journaliste, vous avez couvert la politique et les faits de société, notamment pour Libération. Vous avez surtout commencé comme pigiste à Berlin dans les années 80, puis correspondant en Allemagne. Et c'est sur cette partie de votre carrière que nous allons revenir particulièrement aujourd'hui. Où étiez-vous donc le 9 novembre 1989, Alain Auffray? Le suspense que j'ai ménagé est immense.
Alors j'étais Kantstrasse, au 142.
Ah, c'est très très précis.
Voilà, c'est près de la Savignyplatz, pour les gens qui connaissent, à Charlottenburg, donc à Berlin-Ouest. Et je vivais là depuis le milieu des années 80, dans le Berlin alternatif, libertaire, voilà.
Une belle époque.
Une belle époque.
Et vous avez...
Une autre époque.
N'en dites pas trop, parce qu'on va revenir dessus pendant l'émission, mais vous pressentiez ce qui allait se passer, l'ampleur de ce qui allait se passer ce 9 novembre? Ou ça vous a surpris?
Non, mais il se passait des trucs énormes depuis le début de l'été. Il y avait eu la fameuse... Les gens qui se souviennent sûrement de ces images de l'ambassade d'Allemagne à Prague, occupée par les Allemands, avec Helmut Kohl qui vient leur annoncer... c'est pas Helmut Kohl d'ailleurs, c'est son ministre des Affaires étrangères, leur annoncer qu'ils peuvent passer à l'Ouest. Il y avait, pendant tout l'été, des tas de gens qui... Les Allemands de l'Est pouvaient aller en Tchécoslovaquie sans visa, dans le pays frère. Or, les Tchèques, eux, avaient ouvert la frontière. Donc, il y avait quand même une fuite assez importante.
Et vous, que faisiez-vous en 1989? Cette année-là, le monde changeait. Le rideau de fer s'écroulait, entraînant bientôt dans sa chute l'Union soviétique. France 3 s'appelait encore FR3. Manon et Quentin n'étaient même pas nés. Cyril, notre rédacteur en chef, urinait encore sans appareillage médical. Et moi, je me prenais déjà des râteaux en boum. Ça va être à la fois émouvant et éprouvant de se replonger en 1989 de Zoom. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver vendredi oblige pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Back. Une heure pour se replonger dans une année marquante de l'histoire, et oui, 89, Michael Jackson sortait Smooth Criminal, sans qu'on puisse encore imaginer qu'il était plus criminal que smooth, c'était mon idole de jeunesse et j'ai du mal à me remettre de tout ça. 1989, année charnière pour l'histoire du monde, mais aussi pour l'histoire du petit Matounet, puisque oui, je vous ai menti. Ce n'est pas tant l'album « Déshabillez-moi » de Liane Folly qui a façonné ma libido naissante, mais plutôt le clip de la Lambada, dans lequel un jeune ado faisait frotti-frotta avec une danseuse muy caliente. Heureusement, pour les âmes sensibles et les pudibonds, cette émission ne portera pas uniquement sur l'éclosion de ma sensualité, puisqu'on zoomera essentiellement sur l'autre grand événement de 89, la chute du mur de Berlin. Car en 1989, notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui lui a le sens de l'histoire, n'écoutait pas la Lambada, mais Johnny, qui sortait les portes du pénitencier en allemand. Oh, c'était court. C'était court, mais c'était bon. Alain Auffray, vous allez nous le confirmer, Johnny n'a pas chanté devant le mur de Berlin. Heureusement, vous y étiez, vous allez nous raconter ça. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, à commencer par ceux qui non seulement n'étaient pas nés en 89, mais qui ne savent même pas ce qu'est FR3. Manon Mariani... FR3, c'était ça. En 1989, votre maman n'avait même pas encore rencontré votre papa. Elle flirtouillait encore certainement avec Laurent Baffy, qu'on embrasse.
Ils étaient déjà ensemble.
Ah, c'est vrai. Vous êtes renseigné et vous allez nous raconter l'histoire d'une toute première fois en 1989.
Eh bien oui, les Américains découvraient pour la première fois une série animée culte.
89.
Marge, Homer, Lisa, Bart et Maggie Simpson faisaient leur première apparition en prime time sur la Fox américaine. Je reviens sur la création de la série en fin d'émission.
Face à vous, Alain, en novembre 1989, je mesurais exactement sa taille aujourd'hui, puisque j'allais avoir 7 ans. Et oui, j'ai fait ma première boum à 7 ans. Hein, ouais. Que voulez-vous, j'étais un show, déjà un homme de la nuit.
Quentin, un peu ringard aussi, j'imagine.
Un peu ringard déjà. Chaque vendredi, Quentin, vous vous entraînez dans les archives de l'INA grâce à des gens que vous ne reconnaissez pas quand vous les croisez croisé dans la rue, oh. mais qui vous file quand même un sacré coup de main, il faut dire ce qui est.
Ça a été une erreur.
L'anecdote.
Bah, j'étais en train d'enregistrer dans la rue et il y a une personne qui travaille à l'INA qui s'appelle Samia Jedi qui m'a dit bonjour et j'ai cru que c'était une de nos auditrices.
Une fan.
Mais oui, et je me suis dit, ah, en fait.
Il était content.
Et... Ouais, j'étais content et pas du tout. Elle m'a dit, c'est Samia. J'ai dit, ah, pardon, Samia. Bref, la France qui fête le.
Terrible moment pour vous, Quentin.
Oui, oui. 1989. La France qui fête le bicentenaire de la Révolution, la Chine qui se soulève à Tiananmen et effectivement un tube de l'été brésilien qui reste dans la tête et qui est toujours dans votre playlist, Mathieu, la Lambada, retour en 89.
Effectivement, 1989 en politique, mais aussi donc en musique. Et il n'y avait pas que ce tube brésilien que je connais bien, Quentin, il y avait aussi...
Pump it up.
Pump up the jam, dont la traduction littérale serait « pompe bien la confiture ». Heureusement, notre spécialiste Camille Diao viendra nous dire que c'était pas vraiment ce qu'a voulu dire le groupe Technotronix. En fin d'émission, Marie Debreur nous rejoindra pour l'apothéose comique de ce Zoom Zoom Back. Mais d'abord, la chute du mur de Berlin avec l'un des témoins directs de l'événement, le journaliste Alain Offray. Alain, vous étiez sur place, on le disait. Vous dites que le 9 novembre au matin, personne à Paris ou même à Berlin pouvait prévoir que le mur allait tomber le soir même.
Non. Personne, en effet. Même pas Nicolas Sarkozy, qui je vous le rappelle, a posté à l'anniversaire des 20 ans du mur un post dans lequel il raconte que, alerté par la chute imminente du mur, il est allé à Berlin. Voilà.
Alors, n'accablons pas ce pauvre Nicolas Sarkozy qui vit des moments difficiles en ce moment. Hein, c'est vrai que... Qu'est-ce qui a précipité la chute de ce mur? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? Entre le matin et le soir, il s'est passé mille choses.
Oui. Alors, dans la journée, il y a une conférence de presse de Günther Schabowski, qui pour au bureau politique, au comité central du Parti communiste est-allemand, était la personne chargée de parler à la presse. Et justement, eu égard à la situation que je viens de décrire tout à l'heure, les gens qui partaient vers la Tchécoslovaquie, etc., il annonce qu'une décision importante a été prise, c'est-à-dire que désormais, pour passer à l'Ouest, pour rendre visite à l'Ouest, il serait possible d'obtenir un visa sans condition. À Berlin-Est, capitale de la République démocratique allemande. Et que par conséquent, c'était de facto la liberté de voyager. Bon.
Ça, c'était un énorme changement.
C'était déjà un événement important. Un journaliste présent au moment où cette conférence de presse a lieu en RDA, à Berlin-Est. Un journaliste présent lui demande, mais à partir de quand entre en vigueur cette décision que vous venez de prendre? Le type est un peu emmerdé, il regarde ses fiches, etc. Puis il dit, ab jetzt. À partir de maintenant.
Et donc, c'est ce type-là qui, quelque part, ouvre les vannes.
C'est cette phrase-là. C'est le ab jetzt qui voilà. La phrase, c'est un peu ambigu, parce qu'en vérité, on peut comprendre qu'à partir de maintenant, on peut faire les démarches pour avoir un visa et pour rendre visite. Et le maire de Berlin-Ouest, je ne sais pas si je peux continuer là-dessus, le maire de Berlin-Ouest, qui s'appelait Walter Momper, prend la mesure de l'importance de ce qui vient d'être annoncé, et à la télévision, vers 19h, 20h, il dit cette décision vient d'être prise. Par conséquent, il faut qu'on se prépare à accueillir nos frères de l'Est, qui vont venir certainement en grand nombre nous visiter, et on va faire ça en bon ordre, à l'allemande, discipliné, etc. Voilà où on en est à 20h.
Alors, vous allez nous raconter la suite de la soirée et de la nuit. Juste un mot pour qu'on resitue pour ceux pour qui c'est un peu loin et pour qui les cours d'histoire sont un peu loin. Entre 61 et 89, la frontière, elle était totalement hermétique?
Il y avait 7 points de passage à l'intérieur de Berlin, sur les 40 km de mur. Et alors, ils avaient des fonctions différentes. Et donc, non, il n'était pas complètement hermétique. On pouvait, nous... Alors moi, il se trouve que je travaillais à l'Est. J'ai eu un job à l'Est.
Vous traversez la frontière tous les jours?
Je donnais des cours de français au Centre culturel français de Berlin-Est. Mais c'est vraiment rarissime. Enfin, il y avait très peu de gens qui avaient ce privilège. Mais donc, en gros, elle était quand même étanche pour les Allemands, on va dire, pour faire vite. On passait très très peu.
Avant Pump Up the Jam, morceau iconique de 89, même si à l'époque on ne disait pas ça, on parlait encore français. Voici Shake Your Rump. Ça nous vient de 89 aussi, et c'est les Beastie Boys sur Internet.
they can take out Adam Horowitz. Hurricane, you got clout. Other DJs, you put your head out.
I'm popping on the string, my baby sing around. I do my thing, I'm in a lava lamp. It's in my brain, I'll tell you why I'm freaking and picking. But I rock well,
the Betty Duke,
the Wrench,
and the number of the Tingo. Got more rhymes than Jamaican got mango.
I got my pink link at the end of my stove bar.
Shake your rope.
Michael Diamond.
No, mine's Clarence.
From downtown
Manhattan, the village.
My style's wild, and you know that it's stealing.
This snow bag's something, and you're doing the ball.
Shake your rope.
Inter.
Des images à la télé, un chapitre dans les livres d'histoire. Voilà ce qui nous vient à l'esprit quand on parle de la chute du mur de Berlin en 89. Notre invité, lui, y était. Le journaliste Alain Auffray est avec nous pour ce Zoom Zoom Back spécial 1989. Alain, même si vous n'y croyez pas vraiment à ce moment-là, à sa chute le 9 novembre 89 au soir, vous décidez quand même d'aller faire un tour du côté du mur. Il est 21h, vous arrivez à la porte de Brandebourg et là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en fait, j'y vais pour faire plaisir. Enfin, pour faire plaisir. J'étais un des rares journalistes joignables à Berlin-Ouest, parce que la plupart des confrères étaient à l'Est, où il y avait ces fameuses conférences de presse. Or, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, j'avais été contacté par le chef de l'AFP à Bonn, capitale de la République fédérale, qui me dit, t'as vu Chabowski, quand même, faudrait voir ce que ça va donner, etc. Et là, donc, je lui dis, moi, j'y crois pas trop, mais j'y vais. Par acquis de conscience, quoi. Donc, je commence à traîner, à faire un certain nombre de ces points de passage que j'évoquais tout à l'heure. Je commence par la porte de Brandebourg, où il n'y a pas un chat, il est 22h à peu près. Et puis ensuite, je monte Invalidenstrasse, c'est un autre point de passage où il ne se passe rien non plus. Et c'est là, à ce point de passage de l'Invalidenstrasse, que j'entends qu'on me dit que côté Est, il paraît que dans le point de passage le plus au nord, bordant le Mörstrasse, il paraît qu'il y a des gens qui se massent côté Est, parce que le Ab jetzt, le fameux, est maintenant...
Ils pensent que c'est tout de suite. Vous racontez dans un article assez passionnant que finalement, même jusqu'à très tard, en ce 9 novembre, la chute du mur ou même la réunification de l'Allemagne, c'est pas vraiment un sujet, même à l'Est. J'avoue que ça m'a un peu intrigué, parce que dans les livres d'histoire, j'ai l'impression que là, c'était joué et que...
Alors, ça évidemment, c'est le 9 novembre a tout effacé, mais le 4 novembre, c'est pas loin, c'est 5 jours avant, le 4 novembre, il y a une manifestation absolument formidable à Berlin-Est, parce qu'on est dans une période où il y a des mouvements de protestation très forts, naturellement. Et il y a une manifestation vraiment immense, la plus grande de l'histoire de la RDA, une manifestation pleine de... organisée plutôt par des artistes, des gens de théâtre qui étaient très très actifs à Berlin-Est, et une manifestation pleine de fantaisie, de banderoles, de joie, de cris, etc. Et beaucoup de discours, et jamais, j'ai passé toute l'après-midi à cette manif, j'ai pas vu une banderole qui demandait la chute du mur. J'ai pas entendu un discours qui demandait la chute du mur, c'était pas le sujet.
On remonte vers le checkpoint le plus au nord, justement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les Allemands se pressent au checkpoint le plus au nord de la ville?
Oui, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde. Le quartier à l'est, c'est Prenzlauer Berg, Hein, et dans ce quartier, le quartier populaire, il commence à y avoir pas mal de gens qui se massent. Et les types, la Volkspolizei, les policiers chargés de surveiller le mur, commencent à être sous pression. Mm-hmm. Ils ne savent pas trop quoi faire, etc. Et les gens crient, d'ailleurs c'est marrant, les gens crient « Ouvrez le mur, on reviendra ». Hein, on ne veut pas se barrer, on veut juste passer, quoi. Et puis ils finissent par craquer, quoi. Ils finissent par craquer.
Alors comment se passe ce craquage? J'ai vu, il est un peu plus de 23 heures. Vous dirigez vers un pont qui marque la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.
Oui.
Et là, qu'est-ce qui se passe?
Il y a il y a ce moment. Alors moi, naturellement, par définition, je ne suis pas là, puisque je suis côté ouest. Mais il y a ce moment où les personnes qui passent leur temps à appeler leur supérieur hiérarchique, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont 20 000, ils sont 30 000 de l'autre côté, etc. Il y a un moment où ils craquent et ils disent, allez-y. Et moi, je suis de l'autre côté, parce que je suis monté justement, alerté par cette rumeur qui me dit que là-haut, il y a du monde qui s'est massé côté est. Je vois les premières personnes.
Justement, vous racontez qu'en une heure, 20 000 Allemands de l'Est passent la frontière. Vous êtes sur place. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez? C'est des amas de personnes.
Ouais. Surtout des gens qui pleurent, quoi. Ils sont tous en larmes. Ils sont tous en larmes en criant Wahnsinn, Wahnsinn, c'est dingue. Hein.
Et puis ils découvrent l'autre côté de la ville.
Ça doit être un mur.
Mais le mur tombe, on casse des parties, non?
Pas à ce moment-là. Pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le lancement du sujet, vous avez parlé des pioches, etc. Tout ça, c'est pas le 9 novembre.
Ah, c'est pas le 9?
Non.
Ah, bah alors, on sera trompé dans l'archive. C'est plus tard que. Ah, c'est le 10, c'est le lendemain qu'on fait ça. Oui, c'est le lendemain. Oui, non, mais ça va très vite. C'est pas des jours plus tard, c'est le lendemain. Et vous faisiez quoi en 1989? Lui, il n'était pas né, mais grâce à ses amis des archives de l'INA, ami étant un bien grand mot, sachant qu'il n'est pas foutu de les reconnaître dans la rue.
On s'était vu une fois.
Oui, ça suit.
Avec Samia.
Quentin va nous faire revivre 89 comme si on y était.
Le 14 juillet 1989, on fête les 200 ans de la Révolution française.
Retour quelques heures en arrière sur les cérémonies du bicentenaire de la Révolution française, marquées donc hier soir dans la nuit par un défilé stupéfiant intitulé La Marseillaise. Il y avait au moins 800 000 personnes sur les Champs-Élysées hier soir.
Près d'un million de personnes sur les Champs-Élysées venues admirer l'immense parade pensée par le créateur Jean-Paul Goude. 6 000 artistes, 12 tableaux vivants présentant chaque tribu planétaire symbolisée par des stéréotypes qui ont très mal vieilli. Les Africains nus avec des tam-tams, les Anglais sous la pluie, les Soviétiques sous la neige. Mais il reste quand même ce moment suspendu, la Marseillaise interprétée par la cantatrice américaine Jessie Norman, drapée du drapeau tricolore au milieu d'une place de la Concorde plongée dans la nuit. Pendant cette cérémonie, un hommage est rendu aux manifestants chinois, puisque 1989, c'est une année marquée par les protestations d'avril à juin sur la place Tiananmen.
En Chine aujourd'hui, le gouvernement a reconnu la très grande gravité de la situation. Le Premier ministre et le chef du Parti communiste chinois ont tenté d'établir un dialogue avec les étudiants, mais la foule continue de grossir. Elle exige la démocratie. Plus d'un million de gens aujourd'hui dans les rues de Pékin.
C'est la voix de Christine Ockrent qui raconte ce mouvement parti d'un rassemblement étudiant à la mort de l'ancien secrétaire général du Parti communiste. Ces étudiants qui souhaitent plus de liberté, plus de démocratie, des manifestations pacifiques mais qui se terminent en affrontement. La loi martiale est même déclarée, l'armée ouvre le feu contre son peuple. Difficile de donner le chiffre exact du nombre de morts mais des milliers de blessés. Une image va marquer l'histoire, un jeune homme marche en direction des chars pour les stopper. Le convoi tente de le contourner, mais l'homme, Tankman, se remet sur sa route jusqu'à escalader un char. 30 ans après, on ne connaît toujours pas l'identité de ce jeune homme, devenu l'une des images historiques de 1989. Loin de là, c'est l'été, il fait chaud et on s'enflamme sur une chanson.
La lambada, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la danse de l'été, largement relayée par tous les hit-parades.
1989.
Je ne laissais pas trop longtemps, sinon je peux me mettre à danser, me mettre à groover.
1989, c'est aussi l'année de l'inauguration de l'Opéra Bastille, voulue par le président Mitterrand, et la création d'une course en solitaire.
Il est 15h15 lorsqu'est donné le départ de la plus fabuleuse aventure sur mer, la course autour du monde en solitaire et sans escale. Durée approximative 120 jours. Pour les meilleurs. Les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui auront franchi, sans trop de difficultés, les caps de Bonne-Espérance, Leeuwin et Horn. Soit un voyage de 46 000 km sans aucune assistance.
C'est bien le tout premier Vendée Globe qui s'élance. Cette année-là, le 23 janvier 1989, le monde perd un génie.
Salvador Dali s'en est allé. Dans ce petit hôpital de Figueras, le plus grand peintre du monde a succombé. Et pourtant, ses proches ont espéré. Ce matin encore, Salvador Dali a voulu écouter de la musique classique comme pour renouer une dernière fois avec la beauté, comme pour se préparer au grand voyage, cette mort, sa mort, qu'il avait anticipée.
Toujours j'imagine le jour qu'on dit Dali est mort, mais il n'est pas mort comme tout le monde. Et déjà ça, ça me réjouit.
En août, c'est une petite sonde spatiale de 815 kilos qui nous envoie des photos.
5h55 ce matin, heure de Paris, rendez-vous historique dans l'espace. Voyager frôle à moins de 5000 km et à plus de 100 000 km/h la planète Neptune, la plus mystérieuse et la plus lointaine planète du système solaire. Un regret pour les téléspectateurs du monde entier, les caméras placées à bord de la sonde ont mal fonctionné.
Hey, c'est dommage, la photo est un peu floue, c'est vrai, mais elle a permis aux scientifiques de l'époque de mieux comprendre la planète la plus éloignée du système solaire. Voyager 2 a continué sa course et a quitté notre système solaire en 2018, depuis plus de nouvelles. 1989, c'est aussi un film.
Un sujet maintenant auquel vous n'échapperez pas. Batman arrive en France aujourd'hui à Deauville et le 13 septembre, la semaine prochaine, donc dans tout le pays. Ce film de Tim Burton est un véritable événement. Déjà, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont atteints par la Batmania.
Michael Keaton, Kim Basinger et Jack Nicholson en Joker fou, incroyable au passage, qui avait accepté de baisser son salaire habituel de 10 millions de dollars à seulement 6 millions et un intéressement sur les recettes du film, qui a fait un carton et Nicholson a finalement gagné plus de 60 millions de dollars. Jamais un acteur n'avait gagné autant d'argent sur un seul film. Quant à la BO, vous avez reconnu ?
Eh ben c'est Prince.
Eh oui, évidemment. C'est sur les notes de Prince que je referme ce complètement aux archives. Alain Onfray, 1989. C'est aussi Tiananmen, vous l'avez entendu, yes. et Talkman. Mmh. C'est plusieurs endroits du monde qui se soulèvent cette année-là.
Mais ça joue un rôle d'ailleurs. Ouais. Ça joue un rôle parce que, on ne l'a pas dit, mais en octobre 89, la République démocratique fêtait ses 40 ans. C'était un gros truc. Ouais. Il y avait plein de manifestations, Gorbatchev est venu, et il a eu des mots un peu durs sur les bonzes, comme on les appelait, qui dirigeaient la RDA, qui étaient des vieux bonhommes complètement gâteux. Et donc, les manifestations que j'évoquais tout à l'heure faisaient explicitement allusion à ce qui s'était passé en Chine. Donc ça a contribué à envenimer les choses en RDA, oui.
Zoom zoom back direction 1989, cet après-midi avec un témoin direct de l'événement majeur de cette année-là, la chute du mur de Berlin, le 10 novembre pour être exact. Alain Onfray est avec nous. Alain, on poursuit votre récit de cette nuit historique du 9 novembre 89 à Berlin. Donc ça y est, on commence à passer à l'ouest. Qu'est-ce qui va se passer à l'ouest? Vous dites les gens arrivent, ils pleurent, ils sont émus, ils ont du mal à y croire. Est-ce qu'ils font déjà la fête? Ça ressemble à quoi?
C'est-à-dire qu'ils sont accueillis, c'était très émouvant. Ceux qui arrivaient par exemple en bagnole dans leur Trabant, ils étaient accueillis par des gens qui vidaient des bouteilles de champagne sur leur bagnole, des trucs comme ça. C'est très étonnant. Et il y a pas mal de. Juste à côté de la Bornholmerstrasse, voilà, on est dans le quartier de Wedding à Berlin-Ouest. Il y a des patrons de bars qui ont des bières gratuites, évidemment.
Pour les amis de l'Est.
Et ça a été comme ça toute la nuit d'ailleurs. La bière était gratuite dans tous les bars de Berlin-Ouest, en tout cas dans beaucoup de bars de Berlin-Ouest. Les gens ont déferlé, naturellement, se sont tous dirigés vers l'endroit le plus emblématique de Berlin-Ouest, qui est le Kurfürstendamm, les Champs-Élysées de Berlin-Ouest, comme on dit.
Ouais. Vous-même, vous avez grimpé sur le mur, vous êtes monté?
Alors, ce que je fais, c'est que ça va peut-être. J'ai une amie à Berlin-Ouest qui est une ancienne d'Allemagne de l'Est, qui est passée dans un coffre de bagnole 10 ans plus tôt, etc. Et je vais la voir et je lui dis, voilà, il se passe ça. Et donc, je l'emmène avec moi. Et on retourne, cette fois, porte de Brandebourg, et on monte tous les deux sur le mur. C'est ces images célèbres où on voit tout le mur, plein de gens debout sur le mur, et la Volkspolizei, les policiers en face. Et cette amie me dit avec une émotion que vous y pouvez imaginer en pointant, elle m'a dit ma mère habite là. Voilà.
Et sa mère qu'elle avait pas revue pendant une.
Elle avait pas revue depuis un moment. Ouais.
Vous faites un truc assez dingue, alors que tout le monde va vers l'ouest, vous allez vers l'est.
Oui.
C'était quoi l'ambiance du coup?
C'était un peu désert. J'accompagne Catherine, cette
qui va voir sa mère?
Qui va voir sa mère, oui, elle est allée, je l'ai laissée après. Mais je l'ai accompagnée effectivement, et donc je me suis retrouvé Unter den Linden, côté est, qui était une ville morte. Enfin, de toute façon, c'était toujours un peu mort pour dire. La vérité. Mais là, ça l'était plus encore. Oui.
Et alors, tous ces gens qui affluent de l'Est vers l'Ouest, ils viennent profitant de un effet d'aubaine. Ils disent c'est ouvert, on va aller voir. Ouais. Ou alors, parmi eux, il y en a beaucoup qui se disent je pars et j'en reviens pas en fait. Parce qu'ils savent pas si on va. Est-ce qu'à ce moment-là,
ils prennent leur valise.
Non, non, ils reviennent.
Ah, ils reviennent tous. Ils vont voir, ils reviennent.
Je disais tout à l'heure que quand ils criaient on va revenir en rigolant à la police, c'était vrai. Ils sont revenus, oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils passent vraiment certains.
Non, bah parce que dès le lendemain, la circulation a été régulée. C'est, pouvait faire passer d'est en ouest
sans problème.
Librement.
Il n'y avait plus aucune raison de.
Et ouais, c'est ces images où les pans de mur tombent. Est-ce que vous avez vu que devant la maison de la radio, il y a un pan du mur de Berlin?
Oui, je l'ai vu. Ouais.
Ça vous a fait quoi en passant devant?
Ben, je trouve que c'était une bonne idée.
C'est important, mais c'est important que physiquement on se souvienne de la taille.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, sur ces images célébrissimes des gens qui tapent sur le mur, etc., ça commence à partir du lendemain, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui arrivent du monde entier, notamment des confrères, mais pas seulement. Et effectivement, dont Nicolas Sarkozy, que j'évoquais au début de l'émission, il vient et tape sur le mur. Le seul truc que je lui ai reproché, c'est d'avoir raconté qu'il avait fait ça la nuit du 9, ce qui n'est pas possible.
Une petite erreur de sa part. À suivre, vous le savez déjà, et c'est désormais gravé dans le marbre de votre mémoire, 1989, c'était l'année de ma toute première boum, car oui, j'étais précoce. Mais Manon, qui estime que je ne suis pas le centre du monde, nous parlera d'une autre première fois marquante cette année-là. Non, Zoom Zoom Back revient juste après Ziné, bouclier sur Inter.
Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier, de temps en temps il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pull, impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans la nuit, j'arrête pas de prier. J'avais pas d'autre choix que de m'enfermer. Je peux pas récupérer ce que j'ai perdu. Je suis un trou de camber, j'ai fini par m'en mêler. J'ai perdu trop de temps à frapper dans les murs. J'ai passé l'âge de faire des pranks et des devinettes. Je me suis pas caché derrière la paresse. Je passe tout mon temps au cœur de l'appareil. J'ai l'impression de faire de la mécanique. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse. Un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pull. Impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans la nuit, j'arrête pas de prier. J'ai pas le temps de m'amuser. J'ai pas besoin d'être rassuré. Je sais que je fais ça pour les bonnes raisons. Quand j'ai compris qu'on pouvait faire sans la défiance, ça m'a donné envie de changer. Si j'arrive à me tenir à distance, je suis sûr que les choses finiront par s'arranger. Rien nous arrête comme si c'était possible d'aller au-delà de l'infini.
Ouais, j'ai déjoué le sort.
Du mal à m'arrêter, l'impression d'avoir dans la tête un cycliste. Je dois avancer sans la moindre garantie. Il est temps de s'essayer à la tendresse. J'ai pas le droit de flancher ni de ralentir. Et ça peu importe ce que ça me coûte. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse. Un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. J'ai une boule à facettes sous mon pull. Impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans la nuit, j'arrête pas de prier. Laissez-moi l'oublier. Même dans la nuit, j'arrête pas de prier. Laissez-moi l'oublier. Même dans la nuit, j'arrête pas de prier. Même dans la nuit, j'arrête pas.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
En première heure, nous avons découvert, effarée qu'elle ne connaissait même pas Haroun Taziev. Haroun oui, Taziev non, nous avait-elle déclaré du haut de son insolente jeunesse. Pourtant Manon, c'est bien vous qui allez nous raconter une première fois importante qui a lieu en 1989.
Pendant les vacances de Noël 1989, les enfants américains sont ravis. Un nouveau dessin animé Disney vient tout juste de sortir au cinéma, La Petite Sirène. À l'époque, c'est un genre pour faire rêver les petits avec une jolie histoire, des chansons mignonnes et des morales gentillettes. Mais le 17 décembre 1989, le premier épisode d'une nouvelle série animée va tout transformer.
Careful, huh?
Vous reconnaissez sûrement la musique du générique emblématique des Simpsons. La famille jaune fait ses débuts sur la Fox en prime time dans un épisode intitulé Noël mortel. Les Américains font connaissance avec Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, la famille américaine type totalement dysfonctionnelle mais attachante. Ce premier épisode raconte un Noël chez les Simpsons qui tourne au cauchemar. Privé de primes de Noël, Homer mise sur une course de lévrier pour gagner de l'argent, mais le chien est nul et il finit par l'adopter pour le mettre au pied du sapin.
Bart, t'as entendu comment il s'appelle le Klaps, petit papa Noël? Mais c'est un signe, un présage!
Une coïncidence, pas c'est tout!
Un scénario loufoque qui donne le ton satirique de la série, ton que l'on doit à son créateur Matt Groening. L'idée lui est venue 3 ans plus tôt. À l'époque, il travaille dans un journal de Los Angeles pour lequel il dessine un cartoon appelé Life in Hell, l'histoire de 2 lapins colocataires qui se plaignent de leur vie. La BD tape dans l'œil d'un des producteurs télé les plus en vue du moment, James L. Brooks. Depuis quelques temps, il produit The Tracy Ullman Show pour la Fox, une émission de sketch. Le show marche bien et James L. Brooks est à la recherche d'une pastille humoristique à insérer entre chaque sketch. Il prend donc contact avec Matt Groening pour adapter son comics Life in Hell en version animée. Mais une fois, dans la salle d'attente, juste avant son rendez-vous, Matt Groening panique. Et s'il perdait les droits de sa bande dessinée en signant avec la Fox? Pour lui, c'est hors de question, c'est son bébé. Du coup, il commence à griffonner de nouveaux personnages sur un papier, une famille jaune. Puis il leur donne les noms des membres de sa propre famille. Le père, Homer, dans la salle d'attente. Le papa, Homer, comme son papa. La mère, Marge, comme sa maman. La sœur, Lisa, comme sa sœur. Et il change juste le prénom de... son propre prénom, Matt, en Bart. C'est là, dans une salle d'attente de la Fox, que les Simpsons sont nés. James L. Brooks adore l'idée. Résultat, des courts-métrages des Simpsons sont diffusés entre 1987 et 1989 dans The Tracy Ullman Show. Et c'est un succès. La Fox leur commande une saison entière et Matt Groening réussit son pari, signer un contrat qui stipule que la Fox n'a aucun droit de regard sur la série. Il peut donc s'attaquer à tous les sujets et tout y passe, les médias, le mariage homosexuel, la religion, l'écologie et même la Fox hein, d'ailleurs. Les Simpsons ont même prédit le futur à plusieurs reprises. Lady Gaga au Super Bowl, Disney qui rachète la Fox, l'iPod, la Apple Watch et même l'élection de Donald Trump.
We've inherited quite a budget crunch from President Trump.
Comme vous le savez, on a hérité de beaucoup de soucis à cause du président Trump. C'est Lisa qu'on entend. C'était en 2000, 16 ans avant son élection. Et puis, les Simpsons, c'est aussi un carton d'audience. Un an après la diffusion de son premier épisode, plus de 20 millions de téléspectateurs sont devant leur télé tous les dimanches soirs pour suivre les aventures de cette famille. Les répliques deviennent cultes, ça dans toutes les langues.
Oh, pinaise.
La voix française mythique de Hubert Gagnon, décédé en 2020, a aussi participé à la renommée de la série en France. Les Simpsons devient aussi une vraie marque avec des centaines de produits dérivés qui cartonnent. Dès la première année, ils génèrent des revenus qui se comptent en milliards de dollars. La série a aussi remporté 32 Emmy Awards. Elle compte aujourd'hui plus de 800 épisodes, 36 saisons et pour le moment, aucune date de fin n'est prévu. Alors, Alain Onfray, je ne vais pas vous parler des Simpsons, non. Mais les Allemands de l'Est qui sont passés à l'Ouest, c'est aussi tout un monde qu'ils ont découvert, des marques, une culture.
Oui, oui. Ils ont découvert plein de choses. Le produit le plus spectaculairement présent à ce moment-là, c'est la banane. Il y avait des bananes partout. Parce qu'ils ne connaissaient pas les bananes. C'était des Utfrüchte, des fruits du Sud, qui étaient des trucs chers et rares. Mmh. Et donc, les marchands de bananes, on a déversé des tonnes du port de Hambourg qui arrivait à Berlin. Et il y avait des images absolument spectaculaires, des camions, avec bourrés de bananes, ils balançaient les bananes. Ça, c'est vraiment spectaculaire. Il y a eu l'autre, les cigarettes également.
Hein. Ah oui.
Notamment, il y en a une qui avait la marque West, W-E-S-T. Naturellement, c'était la bien nommée. Et eux aussi ont fait des pubs absolument monstrueuses. Et donc, oui, ils ont découvert tous ces produits.
Il y a encore aujourd'hui une différence Est-Ouest, d'années après la chute du mur.
Oui. Ben, il y a... Vous avez vu les législatives de...
Oui, politiquement déjà, effectivement.
Déjà, oui, mais ça dit beaucoup de choses. Aux dernières élections législatives, l'AFD est en tête dans tous les Länder, dans tous les États de l'Allemagne de l'Est, mais pas qu'un peu, de très très loin. C'est le premier parti, mais de très loin, pire que Bardella. Ouais. Et ça, naturellement, enfin, ce serait long à expliquer, mais ça a à voir avec un ressentiment, les difficultés qu'il y a eu dans la réunification, le fait finalement que leur histoire, ça a duré 40 ans, mais enfin, c'est quand même une histoire, c'est deux générations, elle a été complètement effacée brutalement, quoi.
Vous parliez des produits, il y a un super film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Goodbye Lenin. Ah ouais. Une femme d'Allemagne de l'Est, militante du Parti communiste, atteinte d'amnésie, dont le fils fait tout pour qu'elle vive dans l'illusion de la RDA, même avec des produits qui ramènent des faux produits, il faut retrouver les fausses étiquettes. Ça a réveillé pas mal de nostalgie de ce film chez les Allemands. Pour quelle raison, à votre avis?
Ouais. Alors c'est drôle que vous me parliez de ça, parce que le type qui a fait ce film, il est avec moi cette nuit-là.
Ah ouais.
Martin Kukula, il s'appelait, il est décédé malheureusement. C'est lui qui a filmé les choses.
Quand il est dessinéaste ou il était journaliste?
Il était chef-op. Il a fait la caméra. Et on était ensemble, dans le Meurstrasse, l'endroit que j'évoquais tout à l'heure, où on voit les gens débarquer, on était là tous les deux. Donc voilà, petite année.
Ah ouais, ça a dû vous faire drôle de voir le film, j'imagine.
Bah oui, bien sûr. Il savait pas, naturellement, il était loin d'imaginer que 10 ans après, il allait tourner ce film.
Mais ça, c'est un peu intéressant, parce que cette nostalgie de l'Allemagne de l'Est, qui a même un nom, nostalgie, vue de l'Ouest, on a du mal à comprendre qu'on puisse être nostalgique d'années vécues dans une forme de dictature, quand même.
Oui, mais moi je connaissais pas mal de gens à l'Est à cause de mes activités. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est que la RDA se résume à la vie des autres. Le film que vous avez, que vous connaissez peut-être, c'est pas que ça, quoi. Il y avait une vraie vie culturelle, je connais personne qui regrette la RDA, franchement. Hein. Mais il trouve que l'histoire de ce pays n'a pas été considérée, quoi. Leur expérience a été trop brutalement effacée à leurs yeux, quoi.
Est-ce qu'il y a une forme de sentiment de supériorité des Allemands de l'Ouest, encore aujourd'hui, hein, sur les Allemands de l'Est, ou ça, quand même, ça se dissipe?
Non, mais là, on est quand même, il y a deux générations qui sont passées déjà, donc je pense que ça va finir par s'effacer. Mais enfin, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le résultat de l'élection, ça n'arrive pas par hasard. Ils ont été le tissu industriel a été complètement laminé, et donc c'est les gens de l'Ouest qui ont pris le pouvoir de fait. Économiquement, ils ont pris le pouvoir à l'Ouest, ça c'est clair.
Ouais. Ben chez nous, en France, il y a eu des conséquences à cette chute du mur de Berlin.
Je saurais pas répondre. Oui, sûrement. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a eu en France des caricatures un petit peu qui ont été faites. Notamment du côté de... Lorsque, par exemple, je ne veux pas trop faire de politique, mais lorsque Mélenchon décrit la réunification comme un Anschluss, une annexion un peu comparable à Hitler et l'Autriche, enfin, j'exagère à peine, il se trompe, parce que la vérité, c'est que au moment où tous ces événements il y avait une véritable euphorie, se déroulent, d'ailleurs, il y a eu des élections en Allemagne de l'Est, après la chute du mur, et la CDU d'Helmut Kohl a gagné, mais très 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 largement. Donc voilà. Donc pour répondre à votre question, moi j'ai vu en France des simplifications un peu ridicules sur le fait que la malheureuse Allemagne socialiste avait été annexée par l'Allemagne capitaliste. C'est pas ça.
J'ai envie qu'on revienne sur la nuit et sur les heures et les jours qu'on suivit. Vous avez des images qui vous reviennent peut-être de curiosité, peut-être les gens de l'Ouest qui regardent un peu vers l'Est et inversement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? D'une image qui vous a marqué?
Ouais, bon, j'en ai pas mal. Hein. Pas mal. Une image qui m'a beaucoup marqué, c'est l'image du... J'évoquais tout à l'heure le Kurfürstendamm, donc la grande avenue de Berlin-Ouest. Et le lendemain matin, comme après une soirée de beuverie, etc., le lendemain matin, il y avait des bagnoles est-allemandes, des bagnoles en plastique, là, les petites Trabantes. Il y en avait partout, elles étaient comme s'il y avait un espèce d'ouragan
qui les avait jetées là.
Un tsunami qui avait emporté des bagnoles qui étaient. Voilà, il y avait une image absolument extraordinaire du paysage urbain, alors que normalement, c'est plutôt carré là-bas. Hein. Mais là, c'était le bordel, quoi. C'était très drôle, ouais, très, très joyeux.
Vient de nous rejoindre en studio celle qui a arrêté de s'intéresser à l'histoire quand les révolutionnaires ont commencé à couper les têtes de ses aïeux, Marie de Breuer. Vos fans sont ravis puisque depuis quelque temps, qui sait, peut-être par passion pour nous, peut-être aussi pour atteindre vos heures d'intermittence, vous êtes avec nous aussi le vendredi, ça fait plaisir.
Oui, ça fait très plaisir, une émission qui est sur la chute du mur, sauf qu'en vrai je vais pas beaucoup parler moi de cette sombre
l'histoire de BTP. rien à voir avec le fait que j'ai tout oublié au cours d'histoire, bien sûr.
Voilà, je vous le disais. La gouaille rafraîchissante de Marie de Breuer arrive, mais d'abord, on n'a pas suffisamment parlé de musique cet après-midi. Or, 1989, c'était un grand cru, pas seulement grâce à la Lambada. Camille Diao, bonjour.
Salut Mathieu, bonjour tout le monde.
Camille, cette semaine, un rétro-pop comme je les aime, c'est-à-dire sur le dance floor.
Oui, direction les nightclubs où, en 89, le méga tube dance, c'est... Pop the Jam, Technotronic, une déflagration planétaire à l'été 89. Le titre se place en haut des charts partout en Europe, aux États-Unis, en Australie et même au Zimbabwe. Pas mal pour un groupe belge, car derrière Technotronic se cache un producteur flamand du nom de Joe Bogert et une chanteuse belgo-congolaise, Yakit Kay, 17 ans à peine, hein, qui, pour la petite histoire, s'est fait complètement invisibiliser puisque dans le clip et sur la pochette, à sa place, c'est une mannequin qui chante en playback.
C'est-à-dire, elle n'a pas 17 ans, la fille.
Non, elle n'a pas 17 ans. Oui. Bon, c'est pas très cool, mais je reste sur la musique. Pour construire Pump Up the Jam, Joe Bogert sample deux morceaux de House, ce style de musique électronique venu de Chicago. Le premier, c'est Acid Life de Farley Jack Master Funk, un des pionniers du genre. Vous reconnaissez la ligne de basse et la rythmique. Le second, c'est Move Your Body de Marshall Jefferson, grand classique House dont il emprunte ce motif mélodique. Vous mélangez donc le tout, vous y ajoutez des paroles mi-chantées, mi-rappées qui appellent à monter le son et à tout lâcher. Yo, j'adore cette chanson.
Ça se sent.
Un mélange de hip-hop, de house et de techno. Et si ça prend en 89, et ben c'est parce que depuis quelques années, ces musiques électroniques qui sont nées outre-Atlantique déferlent sur le vieux continent et séduisent sous différentes formes une jeunesse européenne en quête de fête. En Belgique, d'où vient Technotronic, depuis 87, la mode est au new beat.
Ça, ça n'a pas pris une ride.
Genre hypnotique, aux sonorités froides et industrielles qu'on joue dans les méga discothèques frontalières, hein, les Lillois et ceux du nord de la France savent de quoi je parle. En Angleterre, l'été 88 a été celui du Second Summer of Love et de l'Acid House. Des rave parties illégales qui prolifèrent dans tout le pays, ça ne plaît pas trop à Margaret Thatcher, mais ça c'est une autre histoire. Et pendant ce temps-là, à Berlin-Ouest, la première Love Parade, donc l'ancêtre de la Techno-Parade, s'organise en juillet 89 pour appeler à la réunification de la ville.
Donc c'est toute l'Europe qui est prise d'une fièvre électronique en 89.
Exactement, mais ces musiques, elles restent encore underground. Avec sa structure beaucoup plus pop, Pump Up the Jam les rend accessibles à une audience plus large et pose la première pierre de ce qu'on appellera bientôt l'Eurodance. Oui, oui, c'est bien de ça que je parle.
Et là, ça devient sérieux.
Ouais, le doux son de l'Eurodance, ses riffs de synthé, ses mélodies entraînantes et toujours de très bon goût. Une musique made in Europe qui devient la bande-son des années 90 et un véritable phénomène commercial.
Dance Machine, la grand-messe de la dance à Bercy, rassemble à chaque fois 17 000 fidèles.
Il paraît que Cyril de la Carrière y était à Dance Machine.
Chaque semaine. Incroyable mais vrai, plus d'un disque sur trois vendu dans le monde est un disque de dance.
Alors on produit de l'Eurodance partout, mais il y a quand même deux pays qui se démarquent. L'Allemagne, d'où vient le groupe Snap. Ah oui. Et l'Italie, avec sa fière représentante, Gala. C'est tout un continent qui vibre à l'unisson sur ce que l'écrivain Aurélien Bélanger a qualifié de dernier grand courant artistique trans-européen. En fait, à quelques mois près, la sortie de Pump Up the Jam coïncide avec la chute du mur de Berlin. C'est une période, on le disait, d'euphorie. C'est la fin de la guerre froide, c'est la réunification de l'Europe. Les frontières s'ouvrent avec l'espace Schengen, les étudiants se mélangent grâce à Erasmus. L'avenir s'annonce radieux et cet état d'esprit, en fait, on le retrouve dans le son de l'Eurodance. Pour Aurélien Bélanger, le véritable père fondateur de l'Europe, c'est pas Jean Monnet, c'est le chanteur des FL65.
Ça va très loin là.
Ouais. Bon, moi je trouve qu'il oublie un peu vite Technotronic quand même parce que ce sont eux qui ont ouvert la voie dès 1989. Et d'ailleurs 35 ans plus tard, Pump Up the Jam est devenu une trend sur TikTok avec pas moins de 300 000 vidéos à ce jour. Et moi j'ai envie d'y voir un signe. Alors que l'Europe fait à ses dépens son grand retour dans l'histoire, peut-être ne nous reste-t-il plus que l'Eurodance pour retrouver un peu de cette légèreté du monde d'avant.
Et si on essayait pour voir ce que ça donne? Merci Camille Diao, encore une fois grâce à vous. Un phénomène rare sur cette antenne. Technotronic monte la confiture sur France Inter. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Ow, ow.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Alors, Marie de Boer, je sais que le vendredi, vous faites un extra par amitié pour nous, mais ça ne vous autorise pas à relâcher complètement l'effort sur les lancements. Je vous rappelle qu'ayant déjà suffisamment de choses à écrire, chaque humoriste de cette émission est chargé de m'écrire un lancement de sa chronique, que je lis ensuite avec brio, comme si je l'avais écrit moi-même. Et là, franchement, je cite « Alain, je vous présente Marie de Boer. Point. » Je vous ai quand même connu un peu plus inspiré, vous aviez dû garder toutes les vannes pour votre chronique, ce qui n'est pas con. Alain, je vous présente donc Marie de Boer.
Enchanté, enchanté Alain. Sachez que le stagiaire qu'on a licencié depuis et qui aura pour cadeau de fin de stage une soquette antidérapante a écrit toute la documentation sur toute la documentation que vous vous appelez Michel Auffray, ce qui était pour une humoriste absolument fantastique, hein, puisque ça me permettait de faire 2 minutes de vanne sur Michel Auffray, voilà, avec ses petites lunettes carrées qui peuvent pas se blairer Greta Thunberg, une philosophe là, oui. Et puis en fait non, vous vous appelez Alain. Mais bon, les blagues je les ai écrites, je vais pas tout jeter pour la simple et bonne raison que vous vous appelez Alain et pas Michel. Surtout vous aurez pu vous appeler Alain. En fait, hein, y a plein de Alain qui ont des potes qui y a plein de Michel qui ont des potes qui s'appellent Alain, il y a plein d'Alain qui ont des potes qui s'appellent Michel. J'ai eu plus d'Alain traîné avec des Michel que des Michel traîné avec des Enzo, par exemple. Hein, vous me suivez? Bon. Donc Michel Onfray, il est philosophe. Moi je trouve ça ouf de dire de soi qu'on est philosophe, quoi. Quand on taffe d'analyse philosophique de l'actualité, c'est de tacler une meuf de 16 ans sur son autisme, parce que la meuf a l'audace de pas avoir envie de crever la gueule ouverte comme les ours polaires, c'est peut-être que c'est pas tant ton truc, la philo. Et puis, qu'on se le dise, la philosophie, on a peut-être fait le tour, non ? Hein, la mort c'est triste, l'amour c'est beau, le sexe c'est chouette, le caca ça sort par le cucu. Voilà, je vous ai résumé la philosophie.
Ah oui,
bon, après moi j'ai eu quatre
ah oui.
au bac de philo.
Ah oui, oui.
À la question interprète-t-on à défaut de connaître, j'ai répondu nous interprétons à défaut de connaître. Après, la prof de philo de terminale, c'était une remplaçante, elle était pas ouf. Je l'ai retrouvée sur Facebook 5 ans plus tard, elle avait ouvert une boutique de paniers en osier et de bijoux en macramé en bord de mer. L'enseignement c'était pas son truc, quoi. Mais elle a compris quelque chose d'essentiel de la philosophie, l'air marin, ça fait du bien. Bon, j'arrête de parler de philo, mais on se fait chier, surtout que vous n'êtes pas Michel Onfray. Vous êtes Alain Auffray. Et les ours polaires qui sont au frais. Oh, c'est un mauvais jeu de mots. J'ai toujours pas commencé à parler de notre petit mur de Berlin. Ça sera pas ma meilleure chronique. Moi, le mur de Berlin, ça me rappelle juste mes cours d'allemand. Hein, j'ai fait de l'allemand pendant 6 ans à cause de Tokyo Hotel. Et est-ce que je parle allemand? Bah non, bien sûr. Die der das. Alles Gute zum Geburtstag. Pour les anniversaires. Inter die Welt. Voilà, c'est tout ce qui me reste, hein, surtout grâce à Tokyo Hotel. Pour l'anecdote, en partiel d'allemand à la fac, on avait le droit au dictionnaire pour voir si jamais on connaissait pas un mot, quoi, par exemple. Ou dans mon cas, tous les mots. Et à un moment, on devait faire une petite page de disserte pour donner des conseils à un gars qui n'arrivait pas à dormir dans son dortoir étudiant à cause du bruit. J'avais écrit « Il a qu'à s'acheter des bouchons d'oreilles. » Point. J'ai eu 4 sur 20. Mais au moins, je sais que Boulkies en allemand, c'est « Ohrstöpsel ». Voilà. En même temps, 4 sur 20, je trouve ça un peu raide. Je l'avais lui conseiller quoi ? T'arrives pas à dormir dans ton logement étudiant ? Bah, retourne chez ta mère. C'est pas super sympa. Genre « Oh putain ! Oh là, attends, sur ma montre invisible, je vois qu'il est là. Je vais devoir filocher, moi. Ich bin ein Berliner. C'était un plaisir de vous rencontrer, Alain, pas Michel, et non pas les éditions Albin Michel. Allez, c'était un dernier jeu de mots. Ciao.
Le meilleur pour la fin. Merci, Marie. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom, puisque globalement, on vous retrouve tous les jours hein, dans Zoom Zoom Zen. Je vous demanderai d'ailleurs, pour mon plaisir personnel, de me dire au revoir en Fanny Ardant.
Merci. Merci beaucoup, Mathieu Noël. Ouais. Noël, c'est une belle fête. Au revoir, Zoom Zoom Zen.
Ah, ça m'excite presque autant que la lambada. Merci, Alain. Fred nous a fait vivre la chute du mur de Berlin comme si on y était, pour cause vous y étiez. Je rappelle qu'on peut vous lire tantôt dans Libé, tantôt ailleurs. Vous êtes un peu partout comme ça au gré de vos envies actuellement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les amis, Marie, Manon, Camille, Quentin, tous ceux qui nous aident à préparer cette émission, Florence Gimalac, Alexia Lacour, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Auvert et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Philippe Duclos. Lundi, on se retrouve dès 16h pour zoomer parce qu'on sait rire sur la guerre automatisée. J'ai déjà commencé à bosser sur l'émission, je peux vous dire une chose, celle-ci, faudra pas la manquer.
Zoom Zoom Zen.